Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette rediffusion, nous avons retenu Afrique, terre des ancêtres, le hors-série de Mythologie Magazine consacré aux religions traditionnelles africaines et qui a remporté un vrai succès. Les contributeurs, anthropologues, ethnologues, linguistes, géographes, racontent en texte et en images la richesse des croyances, des rites, des cultes et aussi des arts liés à ces pratiques et analysent la façon dont les traditions des ancêtres ont résisté tant bien que mal ou se sont inculturées à la pénétration de l'islam. L'islam et du christianisme, sans oublier la confrontation avec la modernité. Les invités sont Bertrand Audouy, rédacteur en chef de Mythologie Magazine, en ligne de Bruxelles, Pierre Marais, spécialiste de l'Afrique centrale et du monde bantou, professeur émérite d'archéologie et d'anthropologie à l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique. Également en ligne, Paulette Roulon-Doco, linguiste, ethnologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des Baya Bodoué, ethnie de l'ouest de la République centrafricaine. En studio, Pierre Diarra, d'origine malienne, docteur en théologie de l'Institut catholique de Paris, docteur en histoire des religions et en anthropologie religieuse de la Sorbonne. Et viendra nous rejoindre, dans le courant de cette émission, le géographe Bertrand Sajaloli. Quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet, Bertrand Audouy sur Mythologie Magazine, dont l'ADN, ou la devise, est de donner à comprendre le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
C'est une revue, c'est un trimestriel qui explore les civilisations à travers les récits, c'est-à-dire voir la grande histoire à travers la petite histoire, avec le petit H. Et l'idée, en fait, c'est d'interroger les mythes au sens large, hein, en partant des récits fondateurs et des figures emblématiques de la Bible jusqu'à la bande dessinée. Voilà. Et pour aborder ces thèmes-là, eh bien, on a une approche pluridisciplinaire qui recoupe les sciences humaines, notamment, et également l'art, l'oralité et le folklore. Et donc, on fait appel à ce qu'on appelle des sachants, c'est-à-dire des chercheurs, des universitaires et des conteurs qui vulgarisent, au bon sens du terme, ces sujets-là.
Et alors pourquoi donc ce sujet sur l'Afrique, terre des ancêtres? C'était quoi le but? C'était de dire qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce patrimoine? C'était quoi le but?
Alors le but, c'était en fait, cela reposait sur une question première qui était de se dire, alors que l'islam et le christianisme progressent en Afrique subsaharienne, que reste-t-il des religions traditionnelles, hein, à savoir que les dogmes abrahamiques, notamment donc de l'islam et du christianisme, n'ont pas totalement éliminé ce qu'on pourrait appeler les ferveurs autochtones. Et la question est de savoir qu'est-ce que l'on peut appeler religion, si ce n'est peut-être donc la religion traditionnelle de l'Afrique noire, qui est avant tout celle des ancêtres. Voilà. Et ce qui nous permet également d'aborder l'idée de syncrétisme qui agit parfois comme un incubateur de nouvelles pratiques.
C'est ça, l'idée, c'était de se dire, voilà, il y a eu deux théologies monothéistes qui sont venues, sinon recouvrir, en tous les cas pénétrer, s'inculturer dans un univers animiste extrêmement riche, extrêmement complexe, hein, on va le voir ensemble. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? C'est bien ça.
Voilà, exactement, oui.
Alors, ce que l'on apprend de tout à fait intéressant dans ce numéro hors-série Afrique, terre des ancêtres, eh bien, c'est que, ben finalement, le monothéisme, ça n'est pas l'apanage du judaïsme, du christianisme et de l'islam. En fait, le Dieu unique, eh bien, c'est effectivement en Afrique, il y a le Dieu unique. Il n'y a pas des dieux. Il peut y avoir des divinités, mais il y a un Dieu. C'est monothéiste, en fait.
Effectivement, en travaillant sur ce sujet, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette idée que l'idée du monothéisme qui, à l'origine, nous semble être captée par les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. En fin de compte, cette idée-là, on la retrouve déjà chez les Égyptiens, on la retrouve aussi chez les Perses avec le zoroastrisme et également en Afrique. Et en Afrique, cela se révèle, je dirais, par l'idée de l'ancêtre. Et l'ancêtre est l'unité de départ. Voilà. Et donc nous, ce qu'on appelle dans nos cultures judéo-chrétiennes le monothéisme, ce serait l'idée d'un dieu universel, sans prendre en compte le fait qu'en Afrique, eh bien, vous avez plusieurs dieux universels, si l'on pourrait dire ainsi. C'est-à-dire un ancêtre qui est l'unité de départ.
Alors, je vous propose de faire un petit tour de table, si je puis dire, un peu virtuel, hein, puisqu'il n'y a que Pierre Diarra qui est à mes côtés et vous êtes en ligne. Pierre de Marais et Paulette Roulon-Doco, ainsi Pierre Diarra, dans quelques instants. Que pensez-vous de cette présentation, précisément, du monothéisme africain, si je puis dire? Est-ce que vous partagez effectivement cette vision de Bertrand Audouy? Je commence avec vous, Pierre de Marais.
Oui, alors, je la partage, mais partiellement. C'est-à-dire que, bien souvent, on a l'idée d'un ancêtre céleste, d'un ancêtre du début, d'un ancêtre créateur, mais ce n'est pas du monothéisme. C'est-à-dire qu'il y a un dieu ou une divinité ou un couple de divinités qui est à l'origine du monde dans beaucoup de croyances, notamment chez les Bantous, mais ce n'est pas pour ça qu'on rend un culte particulier à ce dieu. Bien au contraire, bien souvent, on donnera des cultes, on fera des rites vis-à-vis des ancêtres, ils sont nombreux, puisqu'on vous l'avait dit, on est dans un monde animiste avec une pluralité de divinités qui peuvent se loger dans un caillou, dans un arbre, dans une montagne.
Paulette Roulon-Doco, est-ce que vous partagez la définition que donne Bertrand Audouy précisément sur ce monothéisme en Afrique?
Mais écoutez, je pense que le cas d'Egbaïa est assez intéressant parce qu'il nous montre qu'il n'y a pas de monothéisme en ce qui concerne les ancêtres, puisqu'il n'y a pas un ancêtre de référence, c'est l'ensemble des ancêtres. Et ça va plus loin, il n'y a pas non plus de dieu créateur, parce que le monothéisme va souvent avec la notion d'un dieu créateur. Alors, lorsqu'on se trouve dans une société où il n'y a pas de dieu créateur et pas de monothéisme, ça a beaucoup posé de problèmes pour comprendre la religion des gens. Par contre, il y a des ancêtres et la façon dont ils fonctionnent est tout à fait particulière.
Et les ancêtres, donc, qui sont les intermédiaires, malgré tout, avec la divinité supérieure, non ? Pas du tout.
Ils ne sont les intermédiaires de rien. Ils sont les entités auxquelles on s'adresse. Il n'y a pas d'entité supérieure.
Il n'y a pas d'entité supérieure.
Ce sont les maîtres de la nature auxquels on s'adresse.
Pierre Diarra, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Paulette Roulon-Doco ?
Oui, alors ça dépend des lieux, en fait, en Afrique. Selon qu'on est chez les Bantous ou du côté de l'Afrique occidentale, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a quand même l'idée d'un dieu créateur, d'un dieu unique qui peut avoir des collaborateurs, appelons les divinités, et puis ensuite les ancêtres qui sont en fait, au moins dans les régions que je viens d'indiquer rapidement, qui sont des intermédiaires entre les vivants visibles et puis Dieu. Et qui fait que d'ailleurs on s'adresse souvent aux ancêtres pour diverses raisons, pour faire des sacrifices, pour leur demander des choses. Mais Dieu, il est plus loin que les ancêtres et apparemment la relation entre les hommes et Dieu, ces relations sont gérées par les ancêtres. Et donc, on n'a pas trop à se préoccuper des relations avec le Dieu créateur. On compte sur les ancêtres pour le faire. Et il y a très peu de rites et de sacrifices directement adressés à Dieu. Et il y en a, notamment dans les régions du Grand Lac, semble-t-il, peut-être dans quelques coins de l'Afrique de l'Ouest, mais généralement, on s'adresse aux ancêtres et on pourrait dire toute la spiritualité, les rites et même les lois, la morale, tout ça, nous sommes renvoyés aux ancêtres.
Pierre de Marais, est-ce que vous voulez apporter une précision à ce que vient de dire Pierre Diarra?
Je crois qu'il est très très difficile de généraliser. On a
une
extraordinaire de groupes ethniques, de croyances, et même à l'intérieur d'un même groupe, on peut avoir des conceptions différentes. Mais globalement, je rejoins, même si les Gbaya ne font pas partie du monde bantou, puisque c'est des Oubangiens un peu, ils sont juste à la limite, d'une façon générale, on a des ancêtres, et il y a des ancêtres qui ont été les ancêtres créateurs, chez Louba, que je connais bien, on a un homme qui construisait des maisons et une femme qui était potière, qui Bumba Bumba, et puis ils ont donné naissance à l'humanité. Mais on ne leur rend pratiquement pas de culte, ils sont pratiquement inexistants, voilà, ils font partie des mythes de fondation, mais après ça, on a des ancêtres à différents niveaux, on a des ancêtres culturels fondateurs, et puis on a les ancêtres éventuellement qui sont les ancêtres des grands chefs, des rois, et puis on a les ancêtres qui sont les ancêtres familiaux, les ancêtres des fondateurs du clan et du lignage, et à ces différents niveaux, on peut rendre des cultes, et à ces différents niveaux, peuvent intervenir dans la vie quotidienne en venant tourmenter ou aider les vivants.
Allahu Akbar.
Paulette Roulon, donc vous signez donc dans Mythologie Afrique, Terre des Ancêtres, et bien ce long article tout à fait intéressant que vous intitulez « Ancêtres, maîtres de la nature » à propos des Bayas. Alors, maître de la nature, ça veut dire que, bon, ils peuvent, en quelque sorte, diriger les animaux sauvages et aussi, d'ailleurs, être garant du bien de tous. Expliquez-nous.
Oui, spécialement dans la conception des Gbaya, les ancêtres, c'est ce que chaque personne devient à sa mort. Il n'y a pas de spécialisation, il n'y a pas de hiérarchie entre les morts. Tout le monde devient ancêtre une fois qu'il est mort. Et les ancêtres vivent donc dans un monde parallèle aux vivants, et ils sont là pour regarder ce qui se passe chez les vivants. Ils dominent complètement la nature, c'est eux qui s'occupent des animaux sauvages, c'est eux qui s'occupent des plantes sauvages. Ils ont donc un rôle à la fois d'agentivité, tout à fait essentiel, et on s'adresse à eux régulièrement pour leur montrer qu'on se comporte bien, qu'on les respecte, et donc on attend d'eux qu'ils vous aident. Mais ça ne passe jamais à une entité différente. Et ce qui me frappe par rapport à ce que j'entendais, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est vraiment très variable d'une culture à une autre, d'une région à une autre, c'est que le fait d'être d'une société acéphale, c'est-à-dire qui n'a pas de hiérarchie, qui n'a pas de chef, joue beaucoup, je pense, dans la conception qu'ils ont pour leur religion.
Société donc sans hiérarchie. Alors là, je me tourne vers vous, Pierre Demarais, donc spécialiste de l'Afrique centrale et du monde bantou. Vous consacrez un article précisément au roi sacré. Et vous précisez que ces rois, bon, certes, n'ont pas de pouvoir monarchique, mais ce sont des rois. Expliquez-nous.
Oui, alors ce sont des intermédiaires, en fait. C'est des gens qui ont un pouvoir rituel considérable. Ils ont un pouvoir politique qui est souvent limité, parfois même à leur enclos royal, mais ils ont un rôle fondamental dans l'équilibre du monde, dans, par exemple, que le ciel et le soleil, dans le ciel et la terre, soient à la bonne distance, que les pluies interviennent quand il faut, que la sécheresse ne dure pas, que la fertilité des champs, la fécondité des animaux et des femmes soit ce qui est le plus approprié. Et donc, ce sont vraiment des personnages qui ont un rôle rituel de l'équilibre du monde. Ce sont d'extraordinaires machines symboliques qu'une série de rituels place à l'interface entre la nature et la culture, entre le village et la brousse, la forêt.
Effectivement, il ne faut pas du tout entendre leur pouvoir comme un pouvoir monarchique. Ces rois ont disparu quand ?
Oh ben, il y en a encore. Une série qui sont très très importants et parfois, vu la déglingue de l'État dans un certain nombre de pays, les pouvoirs traditionnels sont parfois le garant de la bonne marche des choses à des échelons locaux et parfois d'ailleurs sur des territoires considérables. Hein. Les royaumes Lunda, Luba, Congo s'étendaient sur des surfaces plus grandes que la France, il faut bien se rendre compte.
Et aujourd'hui, leur pouvoir ne s'est pas réduit à une peau de chagrin ?
Leur pouvoir s'est souvent considérablement réduit, mais ils jouissent encore souvent aussi d'un prestige considérable, oui.
Alors il y a un encadré qui a retenu mon attention, Pierre Demarais, donc consacré un encadré dans ce chapitre consacré au roi sacré, c'est sur l'inceste rituel. Alors à une époque, effectivement, on parle beaucoup d'inceste, hein, notamment en France. Et évidemment, j'ai lu ces petits encadrés avec beaucoup d'intérêt. Et là, j'ai donc appris que, le roi, devait absolument tout abandonner. Hein. Pour devenir roi, il faut couper avec le clan de sa mère, etc. Bon, voilà, il semblerait même qu'il faut qu'il tue son père et tue sa mère. Alors ça, vous allez quand même nous l'expliquer. Mais surtout, il a le droit de coucher avec sa sœur. Alors voilà, quelle est la signification de cela ?
En fait, c'est pas un droit. Je sais pas si ça les amuse très fort, mais c'est une obligation rituelle. Et justement, par rapport à ce que je disais, que ce roi devenait une machine symbolique intermédiaire entre le monde des hommes et la nature, entre la nature et la culture, eh bien, en faisant l'amour rituellement le jour de son intronisation avec sa sœur, et c'est d'ailleurs une pratique qui est étendue et qu'on connaît dans d'autres parties du monde, ce roi devient une personne sacrée, il se retrouve intermédiaire. Il fait quelque chose qui relève de la bestialité, de l'animalité. Et donc en cela, il se met hors normes, hors du monde des hommes, il se place dans une position intermédiaire. Il va aussi faire un certain nombre d'autres choses rituelles qui vont donc symboliquement marquer la rupture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit symboliquement « tue ton père, tue ta mère », ça veut dire qu'il doit couper les ponts avec sa famille, avec sa tradition, pour se placer encore une fois dans un niveau autre, intermédiaire entre nature et culture, symboliquement.
Pierre Diarra, ça rappelle quand même, dans le christianisme, on dit « tu quitteras ton père et ta mère hein ».
Oui, bien sûr. Bien sûr, pour suivre Jésus de près, il faut être prêt à renoncer à tous les liens humains pour mettre vraiment la relation personnelle avec Jésus en première position. Mais c'est quand même étonnant que, je reviens à ce qu'il vient de dire, c'est étonnant que dans une logique religieuse africaine, il y ait cette exigence de couper vraiment les liens. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu aussi au Sénégal, en Casamance, où il y a un roi, et quel que soit son âge, il faut qu'il renonce pratiquement à toutes ses activités et qu'il soit à un lieu réservé au roi et qu'il soit disponible pour recevoir tous ceux qui veulent le recevoir. Alors, si les jeunes, il n'y a pas trop de problèmes, on a envie de dire, mais s'il a déjà une famille et qu'il a des enfants, c'est quand même un vrai problème. De même chez les Dogons, le Ogon, donc le prêtre traditionnel le plus haut placé, aussi doit avoir une sorte de résidence à part et un lieu déterminé où il va résider. Donc il y a quand même l'idée de se mettre à part.
Oui, d'ailleurs, effectivement, le roi dont parle Pierre de Marais, il ne doit pas avoir les pieds qui touchent le sol. Hein. C'est bien ça, Pierre de Marais ?
Oui, tout à fait. Il peut même parfois pas poser son postérieur sur autre chose qu'un coussin royal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces rois étaient tellement marginalisés symboliquement que s'ils devenaient malades, éventuellement, on les tuait rituellement. Moi, j'ai encore rencontré un roi au Nigeria. On m'a dit, tu le vois, mais si tu reviens dans 2 ans, il sera plus là parce que il règne pendant 7 ans et puis on en trouve un autre et on arrête son règne et on met fin à ses jours.
Donc on l'assassine quoi, on l'assassine.
Ça peut être très très fort ritualisé parce que le corps du roi est en fait une espèce de fétiche vivant qui joue ce rôle d'intermédiaire et la bonne santé du roi, c'est la bonne santé de son peuple, c'est la bonne santé de son territoire. Il y a là une identification tout à fait forte.
Pierre Diarra, un mot sur l'inceste en Afrique. Là, on voit que ce roi fait une transgression majeure.
C'est une transgression majeure et en même temps, comme il a bien expliqué, celui qui commet cet acte horrible, il n'est plus en fait un être humain ordinaire. Il est peut-être au-dessus des lois ou en tout cas, il fait un certain nombre d'actes de façon symbolique. Et donc, on n'est plus vraiment dans la réalité, dans la vie sociale, où c'est formellement interdit, mais on est dans une sorte de logique rituelle, où finalement, parce qu'il est roi, il me semble, même si je ne connais pas beaucoup de sociétés africaines où il y a des rois, quelque part, on lui donne un certain nombre de droits, mais rituellement. Donc, en fait, peut-être qu'il faudrait trouver un autre terme, je ne sais pas comment cela est appelé, peut-être qu'il faudrait trouver un terme que inceste. Peut-être que c'est un acte rituel pour montrer que finalement, il est au-dessus des lois et par conséquent aussi, peut-être, on peut lui demander plus qu'aux autres.
Paulette Roulon-Doko, est-ce que vous avez une réaction au propos de Pierre de Marais ?
Oui, je pense que Monsieur Marais a tout à fait raison de parler de différences culturelles et dans le monde bantou, là où il y avait des royautés, en Centrafrique, il y avait le royaume Bangassi, où il y a évidemment ces personnages qui ont un statut particulier par rapport aux ancêtres, mais qui n'est pas vraiment la royauté comme on la connaît en Europe. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pour les Gboya, c'est-à-dire le fait d'être une société sans hiérarchie. Et il n'y a pas seulement chez les Gboya, puisque d'autres populations d'Afrique centrale, les peuples Ubangia, sont comme cela. La donne est complètement différente, puisqu'il n'y a plus ces intermédiaires qui peuvent être au niveau des personnes vivantes.
Yeah,
Pierre Demarais, je me tourne à nouveau vers vous. Donc, vous êtes un spécialiste du monde bantou. Alors, il faut quand même déjà, effectivement, arriver à s'imaginer ce qu'est ce monde bantou. Hein. 400 millions de personnes, hein, ça concerne 400 millions de personnes au moins, 500 langues et un monde qui remonte à combien de millénaires ?
On peut remonter l'origine des Bantous aux confins entre le Nigeria et le Cameroun à au moins 4 ou 5 000 ans. Et on peut, et c'est ça qui est fascinant, c'est aussi, puisqu'on a toutes les langues bantoues, faire comme pour l'indo-européen, les comparer entre elles et reconstituer la langue d'origine, le proto-bantou. Et il se fait qu'en faisant ça, on peut reconstituer le mot d'origine, leur racine, et donc savoir qu'on parlait il y a 4 000 ans dans cette région du Cameroun, déjà d'ancêtres, que le mot qu'on employait était Koudou, la racine Koudou, qu'on retrouve par exemple en Kikongo, en Koulou ou en Swahili, en Kou. Et donc ce mot d'ancêtre devient aussi petit à petit par glissement sémantique, il veut dire un peu partout, d'un bout à l'autre de l'Afrique bantou, ancien, vieux, dignitaire, personnage vénérable. Et donc, on a, par la linguistique historique, on peut montrer que c'est vraiment une notion qui était fondamentale et depuis très très longtemps.
Alors, est-ce que la question de la hiérarchie se pose de la même façon dans le monde bantou ou est-ce qu'elle est différente ?
Là, encore une fois, c'est difficile de généraliser, mais il y a, je pense, vraiment une hiérarchie parmi les ancêtres. Il y a les ancêtres, je dirais, primordiaux bien souvent. Et puis, il y a les ancêtres qui sont les fondateurs du groupe ethnique, qui sont là où il y a des royautés, à l'origine de la royauté. Et puis, il y a les ancêtres qui sont les ancêtres des clans, des lignages, des ancêtres, je dirais, plutôt familiaux, à qui on rend différents ancêtres, bien souvent, des cultes différents, en fonction de leur plus ou moins grand éloignement de la personne concernée.
Vous insistez sur le fait qu'il faut, dans cette société bantou, apaiser les revenants. Expliquez-nous.
Bien, les revenants, quand ils meurent, parfois ils sont morts parce qu'on pense qu'ils ont été victimes de sorciers, parfois ils sont morts au cours d'accidents. Et il y a toute une série de circonstances de morts plus ou moins violentes. Et ces défunts sont supposés quitter à ce moment-là le monde fâché. Et donc, il faut, par un certain nombre de pratiques, essayer de les apaiser. Sinon, ils vont revenir tourmenter les défunts. J'ai fait des fouilles archéologiques au Katanga. Eh bien, dans des tombes, parfois du 9e, 10e siècle de notre ère, très clairement, on voit qu'on mettait des grosses pierres sur le cadavre au moment de l'inhumer pour être certain qu'ils ne reviennent pas tourmenter les vivants pendant la nuit.
D'où le rôle, effectivement, très important des fétiches, et notamment de ce fétiche à clous. Parlez-nous de ce fétiche à clous, Pierre Demarais.
Les fétiches à clous sont considérés comme des fétiches qui sont des fétiches de chasseurs et qui doivent chasser les voleurs, qui doivent repousser les sorciers. Et qui pouvaient tuer en transmettant une maladie. Et à ce moment-là, il y avait, dans le monde entier, on a cette opposition assez fondamentale entre le sorcier, le ndoki, qui vient d'ailleurs de nouveau d'un vieux mot de la langue ancestrale, le rock, et le nganga,
le guérisseur
guérisseur, exactement, qui lui était chargé d'utiliser le fétiche pour contrecarrer les agissements malfaisants des sorciers.
Pierre Demarais, cette sorcellerie précisément, quel est son impact encore aujourd'hui dans des grandes villes africaines ? Je pense à l'Afrique australe.
Elle est encore très très présente. Et dès que quelqu'un a trop de succès, dès que quelqu'un suscite la jalousie, bien souvent on va laisser courir le bruit que s'il réussit si bien, c'est parce qu'il est sorcier, qu'il est malhonnête. Donc il y a une espèce de contrôle social organisé contre des gens qui se poussent un peu du col et vers qui on invoquera assez facilement la sorcellerie. Donc la sorcellerie reste un mécanisme bien ancré qui fait que dans un certain nombre de cas, on peut montrer que les gens quittent la brousse pour venir dans les villes, pour rentrer dans l'anonymat et ne plus être accusés de sorcellerie.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'héritage négatif là, de de cette religion traditionnelle des ancêtres ?
C'est en tous les cas, je ne sais pas si c'est une religion ou d'une religion traditionnelle, mais c'est en tous les cas un aspect négatif qui pose et qui continue à poser beaucoup de problèmes. À Kinshasa, on a vu par exemple des enfants que les parents envoyaient en ville parce qu'ils ne pouvaient pas les nourrir en brousse, et ces enfants étaient recueillis dans une famille, et la famille ayant trop d'enfants à s'occuper, décréter que cet enfant était un enfant sorcier et le chasser, ces pauvres gamins devenaient des enfants de la rue, vivant dans une misère et dans une situation épouvantable.
Pierre Diarra, vous avez consacré précisément tout un article sur la sorcellerie, mais vous prenez cette question sous la forme d'une interrogation. Comment comprendre la sorcellerie ? Alors moi j'ai envie de dire plutôt, mais bon, la sorcellerie, comment s'en libérer ?
Oui, comment la comprendre, c'est parce que la sorcellerie, elle peut être liée surtout au pouvoir religieux, mais aussi au pouvoir social pour gérer donc la marche de la société. Et du coup, le sorcier, il peut avoir en même temps un visage positif et un visage négatif. Ceux qui s'en servent pour asseoir leur pouvoir peuvent utiliser la peur du sorcier pour pouvoir donc se faire respecter ou pour essayer de faire respecter les lois qui sont en vigueur. Et puis, ceux qui n'arrivent pas à obtenir justice, par exemple, ils peuvent faire peur ou réclamer donc l'intervention du sorcier pour que justement, notamment les juges et puis d'autres responsables politiques et sociaux puissent justement intervenir dans le bon sens. Donc, le sorcier, moi je le lis davantage du côté du pouvoir religieux et politique, mais aussi on peut regarder le sorcier comme quelqu'un qui a des pouvoirs magiques et peut-être lié aussi à des êtres invisibles pour pouvoir agir dans la société et qui fait qu'on a peur de lui. Et cette peur-là est viscérale et quelque part, il y aurait une manifestation du mal peut-être qu'on peut trouver dans toutes les sociétés et peut-être dans le cœur de chaque individu, ce désir de faire peur, ce désir d'obliger l'autre soit à faire des choses qu'il n'aimerait pas faire, soit à aller dans le sens de la justice. Parce que justement, il a peur et il sait qu'il y a des gens dans la société qui peuvent justement jouer ce rôle de méchant, ce rôle de peut-être aussi des régulateurs de société pour obliger les uns à essayer d'aller dans le sens du bien et de la justice et les autres à avoir peur et peut-être à agir malgré tout comme la société aimerait qu'ils agissent.
Vous voulez dire effectivement que là où la justice peut être défaillante, eh bien la sorcellerie a un rôle à jouer.
Voilà, la sorcellerie peut avoir un rôle à jouer. Ce n'est pas toujours évident parce que même le juge en Afrique peut avoir peur du sorcier. Et donc, si on n'arrive pas à obtenir justice, on peut menacer le juge en disant « je vais faire intervenir le sorcier » et pour peu qu'il croie au pouvoir du sorcier, peut-être qu'il va faire bien son travail.
Est-ce que ça paralyse malgré tout ?
Ça peut aussi paralyser.
La société africaine, oui.
Voilà, ça peut paralyser dans la mesure où aussi on peut plus ou moins menacer le juge d'aller dans un sens qui n'est peut-être pas le sens de la justice et l'obliger à rendre un verdict qui ne correspond pas à la procédure ou à la justice qu'il devrait rendre. Donc, il peut y avoir différentes interprétations de la sorcellerie et dans la société, le sorcier peut agir dans différents sens.
Paulette Roulon-Doko, dans la société Baya que vous avez, dans l'ethnie que vous avez étudiée, le rôle du sorcier ?
Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit. La sorcellerie est vraiment un élément régulateur qui permet de dénoncer lorsque quelque chose sort de la norme, immédiatement, il y a une réaction, certainement au niveau de la sorcellerie. Mais elle n'est absolument pas, elle ne joue pas par rapport aux ancêtres. Je veux dire, ce n'est pas du tout une force qui est mise au niveau des ancêtres. Les ancêtres et la religion qu'on peut avoir vis-à-vis des ancêtres et la sorcellerie, ce sont deux domaines complètement différents. Et ils ne jouent pas l'un sur l'autre. Hein, ça, je crois que c'est une grosse différence. Par contre, par rapport à ce qui a été dit, par rapport au milieu urbain, au Cameroun en particulier, où vous avez aussi des Gbaya, moi, j'ai pu constater que la sorcellerie se développait beaucoup plus en milieu urbain qu'en milieu traditionnel, où l'équilibre, comme le disait M. Diarra, entre la bonne sorcellerie et la mauvaise sorcellerie, parce que le sorcier en soi, c'est un pouvoir, il n'est pas
forcément négatif, il peut être neutre. Par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup, on dira « Ah, il est un sorcier du travail bon, ». Ça ne porte pas à conséquence et ça n'a aucune importance.
Un bourreau de travail,
donc,
quoi.
Cette ambiguïté de la sorcellerie entre bon et mauvais, lorsque l'on est en ville, donc avec des sociétés qui se défont par rapport à leur structure traditionnelle, on s'aperçoit que il y a un développement beaucoup plus grand de la sorcellerie. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater au Cameroun.
Pierre Demarais, vous avez constaté dans les villes ce que vient de préciser notre invité, Paulette Roulon-Doco?
Oui, c'est vrai qu'au Cameroun, la sorcellerie est très très présente en milieu urbain, mais dans le monde bantou, il y a vraiment plutôt l'opposition aspect magie blanche et sorcellerie, guérisseur, sorcier, mais on a cette présence, ce rôle régulateur, ce rôle de contrôle social, de manipulation de la sorcellerie. Ça a été très très bien étudié et décrit au Cameroun depuis longtemps, dans les deux milieux, en milieu urbain et au niveau villageois.
Pierre Diarra, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, par rapport justement aux personnes qui peuvent être accusées de sorcellerie, alors que ce ne sont pas des sorciers, parce que justement, on cherche un coupable.
Le bouc émissaire, oui.
Voilà, cela se remarque de plus en plus dans les villes, où parfois, parce qu'on cherche un coupable idéal, on peut accuser quelqu'un de sorcellerie, alors que peut-être la personne n'est pas du tout sorcière, et on va l'obliger plus ou moins à se démasquer, comme ça se faisait aussi peut-être dans les sociétés traditionnelle dans le milieu paysan.
Oui, mais pourquoi en ville? Pourquoi le milieu urbain se prêterait davantage au milieu rural?
Peut-être parce qu'il y a un certain anonymat, même si, bon, dans les quartiers, il y a des relations sociaux, les gens se connaissent. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même une idée que, finalement, la personne qu'on ne connaît pas bien ou qui n'a pas de relations sociales peut facilement être traité de tous les maux, en particulier peut être accusé de sorcellerie, et donc on va plus ou moins l'obliger à se démasquer, parce qu'on peut être sorcier sans le savoir.
Alors, on va quitter le monde de la sorcellerie pour celui des animaux. Il y a deux animaux hein, dans ce hors-série Afrique, Terre des Ancêtres de Mythology Magazine. Alors, c'est l'oryctérope et le pangolin. Alors, le pangolin, évidemment, comment ne pas en parler, qui est le roi des animaux au Congo, Pierre Demarais.
Oui, alors, c'est des animaux, le pangolin, comme son cousin, l'oryctérope, sont des animaux qui laissent les populations perplexes parce qu'ils sont difficiles à classer. Voilà pour le pangolin, un animal qui a des écailles comme un poisson, mais pour le petit pangolin qui monte aux arbres comme un écureuil, qui fait un jeûne à la fois comme un être humain, qui se redresse d'ailleurs sur ses pattes arrière, comme l'oryctérope d'ailleurs, lorsqu'il veut gratter ou trouver une termitière. Voilà, c'est des animaux qui sont inclassables, qui plongent les gens dans une certaine perplexité taxonomique et qui, par conséquent, sont bien souvent, depuis le Nigeria jusque chez les Bamana, pour l'oryctérope au Mali, jusqu'au Malawi, un peu partout, sont des animaux qui sont de nouveau à l'articulation entre la nature et la culture, et bien souvent qui sont assimilés à des chefs, comme chez les Rukuba au Nigeria, par exemple. Et donc, des animaux tout à fait extraordinaires, littéralement, et donc qui sont ce qu'on a pris l'habitude d'appeler en anthropologie des animaux bons à penser plutôt que bons à manger.
Alors, question que pose hein, ce hors-série Afrique, Terre des Ancêtres, eh bien, c'est la confrontation hein, de la religion, des religions des ancêtres avec la modernité. C'est un géographe, hein, Bertrand Sajaloli, qui répond et que nous retrouvons en ligne d'Orléans où il enseigne. Bertrand Sajaloli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc, je le rappelle, géographe, vous enseignez à l'Université d'Orléans, vous êtes un spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, spécialiste des relations entre l'homme et la nature, que vous étudiez particulièrement dans les zones humides. Alors, une première illustration de cette confrontation de la religion des ancêtres avec la modernité, c'est la cosmogonie de l'eau en pays Dogon. Hein. C'est un des deux articles que vous signez dans Afrique, Terre des ancêtres. Et là, vous montrez que les pratiques rituelles qui géraient ou qui gèrent encore l'utilisation collective de l'eau, eh bien, sont quand même mises à mal. Hein. Notamment, il y a donc l'islam qui est en grande progression et qui, quelque part, efface la sacralité de la nature pour finalement se tourner uniquement vers un dieu unique, Bertrand Sajaloli.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, il faut revenir sur le fait que dans les religions animismes, telles que Descola peut les décrire dans son livre hein, Par-delà nature et culture, il n'y a pas de différence radicale entre la nature et la sacralité. C'est-à-dire que tout est sacré, tout est magique, et la nature renvoie à la fois à un ordre surnaturel, mais aussi au parcours des ancêtres, etc. Et donc, dès lors, toutes les pratiques traditionnelles, toute la religion Dogon est d'une certaine manière un culte à la nature. Le deuxième point, on est dans un milieu qui est extrêmement sec, hein, avec des saisons sèches qui durent 9 mois, et donc l'eau est extrêmement précieuse, et d'autant plus précieuse que la perméabilité de la falaise de Bandiagara, hein, donc de ce gré, fait que il va y avoir quelques lieux d'eau, des mares, quelques rivières autour qui constituent des ressources en eau pour des populations qui sont assez importantes au pied de la falaise et qui mettent en valeur sur un plan agricole, etc. Et ce qui est très intéressant dans le pays Dogon, c'est que quand on regarde de près quels sont les rites, quelle est l'organisation sacrée qui va régir les relations entre l'homme et la nature, entre les Dogons et l'eau, on peut considérer qu'il y a une véritable gestion raisonnée, raisonnable de la ressource en eau.
Et cette gestion raisonnable est aujourd'hui mise à mal, semble-t-il.
Voilà, elle est mise à mal. Donc, le pays Dogon, hein, comme vous le savez, est aujourd'hui extrêmement difficile d'accès. Hein. Il fait la une de l'actualité puisqu'il y a un prophète qui a prêté allégeance, qui anime des cellules terroristes. Il y a d'ailleurs beaucoup de conflits qui ne sont plus simplement religieux, mais qui peuvent être aussi un peu interethniques, hein, entre les peuls et les ethnies qui sont voisines. Mais cette sacralité animiste, elle est en concurrence avec une sacralité de l'islam et dont le premier commandement dit que Allah est Dieu. Et donc, il est insupportable pour les musulmans, et on peut le comprendre, hein, dans la sacralité qui est la leur, de considérer qu'il puisse y avoir d'autres sacralités, qu'il puisse y avoir un animisme. Et cette compétition entre les deux sacralités, la sacralité traditionnelle et la sacralité de l'islam, met à mal, perturbe, modifie les rapports que la société Dogon a par rapport aux ressources en eau.
Alors Bertrand Sajaloli, cette compétition, j'allais dire, entre les religions traditionnelles et puis la modernité, elle n'est pas forcément négative. Et là, je fais allusion effectivement à votre second article dans Afrique, Terre des ancêtres, un article que vous consacrez à la tradition Siamou. Vous l'intitulez « La tradition Siamou à l'épreuve du goudron ». Alors c'est tout à fait intéressant, c'est les répercussions de la route qui a été construite en goudron, donc entre Bobo Dioulasso et Sikasso, donc au Mali, hein, donc entre le Burkina Faso et le Mali. Une route qui a été construite dans les années 2000, et finalement, ça n'a pas eu que du mauvais loin de là. Alors, expliquez-nous.
Oui, exactement. On a souvent tendance à considérer que il y a la modernité qui est une espèce de bulldozer, et que ce bulldozer irait petit à petit écraser toutes les cultures locales. Et ce que nous montrent les Siamou, hein, ou le peuple Sémé, c'est un petit peu l'inverse, parce que tant qu'ils ont été très enclavés, très difficiles d'accès, donc en gros jusqu'à la fin des années 90, on avait une culture qui était en train de disparaître, et même cette langue, hein, qui est très extraordinaire, le Sémé, c'est une langue a-t-on commencé à ne plus être parlé par les parents aux enfants, hein, et on leur préférait le Dioula, qui est la langue véhiculaire de l'ouest du Burkina. Mais avec l'ouverture de la route, hein, avec l'avènement d'un trafic international, hein, qui s'est tout de suite mis en place, d'autant plus que la Côte d'Ivoire, toute proche, hein, était en crise et que donc, voilà, pour assurer plus de sûreté au transport international, cette route a tout d'un coup été très utilisée. Dans des conditions où les terres sont très fertiles, hein, puisque on est dans un coin au sud-ouest du Burkina, qui est plus élevé, avec des terres qui sont fertiles et des précipitations qui sont importantes. Et donc, on aurait pu penser dans un premier temps que la tradition sémée aurait disparu. Or, c'est exactement l'inverse, hein, qui s'est passé. Il y a eu une espèce de réveil identitaire très fort, hein, même un réveil de la pratique, hein, de la langue qui est sémée. Et on a notamment des jeunes sémés qui sont aujourd'hui très porteur de cette identité qui la défendent âprement. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu un épisode, hein, il y a 2-3 ans qui était assez marrant. Il y a là aussi une concurrence entre un islam traditionnel unite, et la mosquée avait été construite dans l'emplacement d'un bois sacré, et les jeunes sémés ont détruit la mosquée en disant, voilà, l'islam n'a pas à investir un lieu sacré du Siamou.
Je vous remercie, Bertrand Sajaloli. Donc, je rappelle que vous signez deux grands articles dans Mythologie, un magazine consacré donc à l'Afrique, terre des ancêtres. Je vous remercie. On va refermer ce numéro hors série Afrique, terre des ancêtres, avec la question du syncrétisme. Alors, je me tourne vers vous, Pierre Diarra. Vous avez signé plusieurs articles, et notamment cet article sur cette fête de Marie et des masques au Mali le 31 mai. Alors, c'est vraiment une très belle fête. Racontez-nous.
Oui, alors, je ne sais pas si on peut parler de syncrétisme en parlant de cette fête. C'est en fait une fête chrétienne, catholique, le 31 mai, donc la fête de la visitation de Marie à Élisabeth, et une fête qui existait avant l'arrivée des missionnaires, la fête des masques ou la fête de l'initiation, où finalement, au début de la saison des pluies, on demande aux ancêtres et à Dieu et aux êtres invisibles de bénir la terre, qu'il pleuve, et donc c'était une fête très populaire, on dansait autour des puits, et donc est venue se greffer cette fête de Marie du 31 mai, qui correspond à peu près à la même époque, et donc les adeptes des religions traditionnelles fêtent donc la fête des masques, et les chrétiens la fête du 31 mai, donc la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, et finalement ce sont des fêtes qui sont le même jour, qui ont lieu le même jour, et viennent s'ajouter donc toutes les autres populations qui sont aux alentours, qui sont musulmanes ou autres. Et donc, c'est une fête populaire où finalement, chacun prie son Dieu.
Les côte à côte.
Voilà, côte à côte. C'est ça. Les catholiques honorent Marie. Les protestants qui sont là, ils prient aussi en s'inspirant de la parole de Dieu. Les musulmans, ils invoquent Mohamed et puis ils prient Allah. Et donc, il y a une sorte de fête populaire où finalement, on fête ensemble sans forcément croire à la même chose. Donc, il n'y a pas de syncrétisme, mais il y a une sorte d'association de fêtes où on se retrouve dans le même lieu avec la même motivation de fêter ensemble quelque chose de religieux sans pour autant adhérer à tout ce qui est proposé au niveau des différentes croyances. Donc, c'est catholiques, protestants, musulmans, adeptes des religions traditionnelles qui ensemble fêtent quelque chose qui est très beau, j'ai envie de dire, où il peut y avoir donc des masques, où il y a donc la statue de la Sainte Vierge qui est promenée dans le village, où on danse autour des puits, où on a de grands repas et même des jeux ensemble, où donc finalement, il y a quelque chose de commun qui est célébré, mais ce n'est pas du tout la même croyance.
Oui, non, c'est très beau, vous avez raison, j'avais dit syncrétique au début, effectivement, ça n'est pas vraiment du syncrétisme au sens où on l'entend, où le syncrétisme c'est une fusion. Là, c'est différent, là, c'est côte à côte, mais c'est un exemple magnifique, ça. Et c'est tout à fait particulier, c'est exceptionnel.
Il y a quelque chose de semblable que j'ai vu en 2010 en Casamance, au Sénégal, où donc ensemble, catholiques, protestants, musulmans, adeptes des religions traditionnelles africaines, ont organisé ensemble la fête du Boukout, donc une initiation où on transmet des valeurs, avec une entrée dans le bois sacré pour recevoir un enseignement et tout un savoir-faire et savoir-vivre, où donc ensemble, ils avaient organisé, préparé ensemble cette grande célébration et où finalement il y a eu, je ne dirais pas du syncrétisme, mais là encore un partage de valeurs où ils ont lu ensemble, ils ont écouté ensemble, commenté des pages du Coran. Il y a un prêtre qui leur a commenté des textes de l'Évangile, il y a un pasteur qui leur a commenté des textes de la Bible et ils ont aussi écouté des mythes. Et donc ensemble, ils ont peut-être réfléchi pour se dire comment on peut vivre aujourd'hui de façon moderne en s'inspirant de toutes les valeurs qu'on peut retrouver dans les différentes religions.
Eh bien, écoutez, on terminera sur ce, voilà, sur cette très belle fête, hein, que vous nous décrivez, Pierre Diarra. Je rappelle, hein, que vous avez signé plusieurs livres, hein, aux éditions Cartala, Les défis du vivre ensemble, justement, c'est en 2016. Et puis, actuellement, vous êtes en train d'écrire un livre sur le dialogue entre chrétiens et justement les adeptes des religions traditionnelles africaines. Un mot de la fin, Bertrand Audouy, vous avez suivi nos échanges au cours de cette émission. Un mot de conclusion?
Oui, bien écoutez, le petit mot de conclusion, ce serait que ces religions traditionnelles, eh bien, les vérités essentielles résident dans les mythes et dans les coutumes. Je dirais, mais ça, je ne suis pas un spécialiste, mais autant chez les Romains, on vivait la religion comme un contrat avec les dieux, et peut-être que dans les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam, on doit vivre sa foi, c'est-à-dire que les croyants prouvent leur amour envers Dieu pour le recevoir en échange. Et peut-être que dans la religion traditionnelle africaine, il est plutôt question d'une implication, c'est-à-dire que l'homme semble vouloir devenir lui-même en s'impliquant dans l'ordre du monde sous le regard des ancêtres. Voilà.
Merci Bertrand Audouy. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Mythologie Magazine, qui a donc publié le hors-série Afrique, Terre des Ancêtres. Pierre Demarais, je vous remercie, ainsi que Paulette Roulon-Doco et vous, donc Pierre Diarra. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Juin 11 juin.